La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux.
Il n'y a pas d'édito enflammé sur le communautarisme blanc.
De sujets moins sérieux.
Ça peut être des bois sculptés à partir de formes naturelles interprétées.
De ce qui se passe en Ile-de-France.
Je me disais qu'à Paris, on était en avance sur la province.
Et de débats pas forcément consensuels.
Parlez-nous un peu de cette coupe menstruelle.
Tous les jours, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur le 93.9.
Nous sommes le 2 avril 2025 et voici le gros titre de l'actualité. Une manifestation contre le verdict du procès de Marine Le Pen est organisée ce dimanche. Cette manifestation réunira une bonne partie de ses électeurs en ville et particulièrement à Paris. Les médias annoncent une manifestation très violente. Nous vous invitons à ne pas les approcher de très près au risque d'être victime d'agressions physiques. Pour rappel, Marine Le Pen a été condamnée lundi à une peine de 4 ans de prison, dont 2 fermes, à effectuer sous bracelet électronique. Mais aussi, la candidate à l'élection présidentielle écope d'une peine d'inéligibilité de 5 ans à exécution immédiate. Voici 3 recommandations culturelles. L'exposition Le Petit Prince, l'Odyssée immersive, ouvrira ses portes le 11 avril à l'Atelier des Lumières. Elle se promet riche en poésie. Trop de colère de Ina, une musique qui parle de la complexité des sentiments, surtout quand on a du mal à les exprimer et qu'on les enfouit. Découvrez le nouvel épisode de Retour au placard, une émission Radio Campus Paris qui aborde le lien très fin entre la mode et la communauté LGBTQ+. Si vous m'écoutez, c'est que ce message est pour vous. Laissez-vous vivre pleinement toutes vos émotions. On nous force souvent à poursuivre le sentiment de bonheur, mais j'ai récemment compris une chose. Le bonheur ne peut pas exister sans qu'on ait le pouvoir de le comprendre. Si vous le poursuivez, c'est que vous avez la chance de le connaître. Ressentir ces émotions est un des plus beaux cadeaux. Alors pleurez de tristesse si ça vous libère, hurlez de joie si ça vous convient, mais surtout ne vous empêchez pas de vivre par peur de ne pas vous contrôler. Maintenant que j'ai eu le temps d'être votre thérapeute pendant quelques secondes, c'est aussi un moyen pour moi de rendre le fait que je pleure pour tout et pour rien normal. Tout le monde est en phase avec ses émotions à sa manière. Certains ne pleurent jamais, d'autres ont déjà pleuré 3 fois aujourd'hui sur TikTok. Mais ça, c'est complètement ok. En effet, si vous me voyez beaucoup sourire, je pleure aussi beaucoup. Et même peut-être plus. Pourtant, je suis quelqu'un de plutôt joyeux, promis. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est normal d'être aussi à l'aise avec le fait de parler autant de soi publiquement. Parce que là, je sais pas si ça se voit, mais je suis très à l'aise. Peut-être que je suis extrêmement narcissique au point de penser que ma vie est palpitante. Ou alors, peut-être que je suis tellement mal dans ma peau que je dois tout remettre sur moi. Telle est la question. En tout cas, je suis ravie de faire cette matinale à vos côtés et j'espère de tout cœur que la programmation vous plaira. Dans cette matinale, on parlera du film L'Utopia, Uncourt Production, avec Hélène, un extrait d'un atelier radio de la classe de 4e E du collège Ariane à Argenteuil sera diffusé avec le thème « Les résistances des femmes à l'esclavage dans le contexte colonial du 18e siècle ». Le festival Circulation sera avec nous et répondra aux questions de Maïwenn. C'est Fabien qui est chargé du Flash Info cette fois-ci. Un dernier zoom vous sera proposé avec le rappeur Innocent et Alice à l'interview. Enfin, on découvrira ensemble la chronique de Diane. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et nous sommes avec Hélène. A tout de suite.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Bonjour Hélène, bonjour notre invité.
Bonjour.
Bonjour.
Hélène, je te laisse la main.
Merci. Bah écoute Lou, il ne t'a pas échappé qu'hier on était le 1er avril, un jour de blague pour beaucoup, mais un jour beaucoup moins drôle pour d'autres personnes puisque c'est le moment où reprennent les expulsions de logements après la trêve hivernale. Et justement, Simon Baichourose et Guillaume Tricard, que je crois nous avons au téléphone.
Oui, absolument.
Bonjour Guillaume. Vous venez de réaliser un film, L'Utopia comme lutte et utopia, qui porte sur un squat voué à l'expulsion, mais qui a réussi à se fabriquer un avenir. Il était installé à Montpellier depuis 2014, dans les anciens locaux des archives départementales, et il a fermé le 1er avril 2021. Alors Simon, ma première question, assez bête, hein, mais pourquoi avoir fait ce film ?
Bah, je tiens d'abord à dire quand même que ce soir je fais une infidélité à Radio Campus Montpellier. Ça me fait très bizarre de me retrouver à Radio Campus Paris. Il y a mon émission qui commence en même temps, mais je suis là pour l'Utopia, ça me faisait extrêmement plaisir. Je pense que cette question elle est plutôt orientée vers Guillaume, pourquoi il a choisi. C'est un peu par hasard, peut-être que tu veux faire la genèse, Guillaume.
Guillaume, on vous écoute.
Oui, effectivement, parce que je suis à distance, mais je suis quand même avec vous, parce que moi, je suis resté à Montpellier pour écouter l'émission de Simon. Je l'ai choisi. En fait, il est un petit peu arrivé par hasard, ce sujet. J'avais pas prévu que mon premier long métrage en tant que réalisateur serait tourné autour de la thématique du mal logement et particulièrement d'un squat. Comme souvent dans la vie de manière générale ou même dans la création artistique, ça s'est fait sur une rencontre. Ça vient quand même d'une rencontre de cinéma. Moi, j'étais assistant réalisateur sur les films de François Ruffin depuis toujours. Et au printemps 2019, on était en train de présenter notre film « Je veux du soleil » qui parlait du mouvement des Gilets jaunes. Et un soir, dans une projection à Montpellier, il y a une spectatrice qui est venue me voir à la fin et qui m'a dit « Je suis très touché par vos films, par Merci Patron, là par Je veux du soleil parce que vous montrez des invisibles. » Et elle me dit « Moi, voilà, je suis intervenante dans un squat à dimension sociale qui est à Montpellier. » Et je pense que ça vaudrait le coup. Enfin, ce serait bien que tu puisses y passer. Voilà. J'avais aucune vision particulière du monde du squat. Pour moi, comme je pense beaucoup de gens dans la société, voilà, j'imaginais qu'il y avait un petit peu des gens, comme disait ma grand-mère, qui sont marginaux, qui préfèrent vivre un peu en marge de la société, et puis des accidentés de la rue. Mais je m'étais jamais intéressé au sujet. Et puis voilà, quelques semaines après, je me suis retrouvé à visiter ce lieu. Je les ai fréquentés pendant une petite année. Et puis, l'aventure du Covid, une nouvelle équipe municipale a fait bouger les choses. Oui, J'ai eu un peu de temps devant moi, et voilà.
On va en reparler. Alors, ce film, c'est un film, c'est un film très fort et qui est filmé sans aucune voix off. On suit les acteurs, les acteurs de terrain, hein, à la fois Gwen, une sorte de mère courage incroyable, si j'ai bien compris, mère de famille au RSA qui portait ce projet à bout de bras, Jo, militant infatigable. On a peu d'informations puisqu'il n'y a pas de voix off, vraiment on est dans l'humain. Le film, on a l'impression que la caméra est comme une petite souris qui s'est glissée comme ça dans l'environnement. Comment vous avez réussi pour passer si inaperçu qu'on ne voit pas du tout la mise en scène?
Il y avait cette volonté du côté de Guillaume sur le tournage de se faire le plus petit possible, comme vous l'avez dit. Il a aussi pris beaucoup de temps pour s'acclimater aussi à l'endroit, à connaître les personnes qu'il allait ensuite filmer. Et puis ensuite, pour la question de la voix off, c'est vrai qu'on voulait un film, en fait. On parle de film, on ne dit jamais le mot documentaire. Finalement, c'est un peu, pas un truc négatif, mais tout comme dans notre bouche, on voulait vraiment faire un film avec une narration, un film comme on peut voir un film de fiction, finalement, sans jamais trahir la réalité. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait ces choix de peu d'informations à l'écran, essayer toujours de se baser sur ce qui a été filmé pour essayer de créer un sens à cette histoire. En tout cas, redonner le sens qu'il y avait au spectateur.
Alors Guillaume, j'imagine que vous avez fait beaucoup d'heures de tournage pour vous faire oublier comme ça. Vous avez dû être très présent parce qu'on sent que les personnes parlent en oubliant la plupart du temps la caméra. C'est très rare qu'ils se retournent vers elles. À un seul moment, Gwen se cache
visage,
pour qu'on la voit pas au moment où on dévoile une fresque sur elle. Donc vous avez dû faire beaucoup de rush. Comment vous avez fait pour choisir les scènes? Parce qu'il y a eu un très long temps de montage pour arriver à ce côté très naturel. Peut-être je vais...
Ouais,
je
Guillaume, peut-être Guillaume peut commencer à parler sur le nombre d'heures de rush, hein Guillaume?
Ouais. Sur le nombre d'heures de rush, je dirais sur le nombre de présences, parce que effectivement, ce que je vous disais un peu en intro, moi, je me suis retrouvé dans une situation très particulière qui existe très peu souvent dans le milieu du cinéma, c'est-à-dire j'ai tourné, en gros, pendant 8 mois, je suis allé dans ce lieu-là et j'ai tourné 2, 3, 4 jours par semaine parfois. Ce qui n'arrive jamais, même quand vous tournez un documentaire, un mois et demi, ou à la limite, vous venez une semaine, vous revenez 3 mois après. Là, moi, je suis resté avec eux pendant 8 mois. Donc, assez rapidement, même pour certains qui étaient qui avaient un petit peu peur de la caméra le premier jour où je l'ai sorti, les premiers jours... on a appris à se connaître. Vous voyez, c'est une relation humaine, en fait. Il y en avait qui ont dit oui tout de suite, il y en a qui n'ont pas fait attention, et puis il y en a d'autres qui, au fur et à mesure des jours, des semaines, se sont dit qu'ils étaient en confiance. J'ai réussi, je pense, à installer de la confiance. Elle était réciproque également. Après, on ne va pas se mentir, il y a aussi certaines personnes auxquelles j'ai pensé dans le film, et puis finalement, duquel je me suis éloigné au bout de quelques jours, quelques semaines. Et ensuite, effectivement, il y a la partie... juste je rajoute ça avant que Simon peut-être parle du montage. Là où, effectivement, je suis assez fier quand même d'être arrivé au bout de ce tournage, c'est qu'on arrive à montrer à l'écran des gens au-delà des invisibles, c'est-à-dire que c'est des gens, pour la plupart, qui se cachent. C'est des gens qui passent leur vie à se cacher. Voyez, donc ça, effectivement, c'est une fierté d'arriver à les montrer à l'écran.
Et oui, pour la partie montage, bah effectivement, Guillaume, quand il a fini de tourner, il y a eu quelques années qui sont passées, il est revenu vers moi. Soit je l'aime beaucoup, soit je suis fou, mais il m'a dit, voilà, on peut faire un projet avec ce film. Je lui ai dit, ok. Il m'a dit ensuite qu'il y avait 300 heures de rush. J'ai dit, ok. Et puis j'ai tout regardé. J'ai essayé de créer une ligne à partir de là, à partir de ça, à partir de quelques éléments aussi que Guillaume avait dit, mais je voulais essayer d'en avoir le moins possible pour être vraiment dans la position du premier spectateur, en fait, qui découvre toutes ces images, tous ces gens. Moi, j'étais pas sur le tournage, il fallait utiliser cette force-là de pas avoir été sur le tournage, de pas avoir d'affect aussi, peut-être pour les personnages, en tout cas dans un premier temps, pour essayer de recréer ce lien et cette continuité ensuite au montage.
Alors, vous racontez cette histoire qui se termine par la fin de ce squat. La plupart du camp, dans 9 cas sur 10, les expulsions ne sont suivies d'aucune solution et les gens repartent à la rue. C'est en tout cas les chiffres de l'observatoire qui suit ces expulsions, mais pas dans ce cas-là. Peut-être, Guillaume, pouvez-vous nous dire un mot sur la conclusion de cette affaire, puisque c'est une conclusion plutôt heureuse d'une certaine façon.
Oui, effectivement, ce que vous venez de dire, la norme dans ces squats, même quand c'est des réquisitions de bâtiments publics, c'est une expulsion. Vous savez, il y a le préfet qui donne l'ordre un matin, enfin la veille, et à 6h du matin le lendemain, vous avez des CRS qui entourent le bâtiment et les militants du mal-logement qui montent sur le toit et les familles qui sont sur le trottoir avec les valises. Voilà, c'est ce que vous voyez dans les émissions, dans les reportages sur France 3 ou dans les émissions de télé. Donc ça, c'est la norme. Moi, quand je commence le tournage, je pense que ça va se terminer comme ça. Puisque quand Gwen me rappelle début septembre 2020, elle me dit, voilà, la nouvelle équipe en place veut récupérer le bâtiment. La préfecture, a priori, a validé ça. Sauf que, effectivement, ils se mettent autour de la table. Les associations les soutiennent. Et puis, il y a effectivement ce post-Covid et ce nouveau Covid couvre-feu qui donnent quelques mois de répit, qui font que les gens se mettent autour de la table, ce qu'on voit aussi dans le film. Hein. Je suis aussi content de ça, qu'on a pu avoir accès à des réunions officielles entre institutionnelles qu'on ne voit aussi très, très rarement à l'écran, parce que normalement, vous devez demander des autorisations dans tous les sens. Moi, évidemment, je n'ai rien demandé. Je suis arrivé avec la caméra et en gros, j'ai mis les gens devant le fait accompli et ça a marché. Et du coup, à la fin, ça se termine bien parce que je le crois, et on le voit dans le film aussi avec le montage qu'a réalisé ensuite Simon, c'est qu'on voit bien les moments de doute, même des institutionnels. Les mois se passent, les semaines passent, on se revoit 2 fois, 3 fois, 4 fois, et vous avez des interactions humaines qui se créent. La personne de la préfecture, les gens de la mairie sont quand même attachés à cette histoire-là. Et je pense que quand le soir, ils rentrent chez eux ou de la réunion, ils se disent que quand même, ils vont pas. Voilà, et ça serait dommage de déclencher une évacuation, enfin une expulsion classique. Donc je crois que l'humain, là, et la temporalité des 7-8 mois a joué évidemment un grand rôle dans la fin de cette action-là. Et puis, bon, bah oui, clairement, il y a eu aussi forcément une volonté politique de la nouvelle mairie de pas expulser sauvagement les résidents comme c'est le cas d'habitude.
Oui, c'est un film très positif, notamment il y a ce représentant de la mairie qu'on sent avec une volonté forte de trouver des solutions et de trouver des compromis. C'est ce qui est assez intéressant à voir, c'est les compromis de part et d'autre. D'un côté, des militants qui trouvent des arrangements avec leurs idéaux, mais sans y renoncer à ce à quoi ils tiennent. Et puis une mairie qui a aussi des nécessités. Simon, le film est très positif, donc. Et je me suis demandé, est-ce que vous avez choisi de ne jamais montrer les tensions? Parce qu'il y a quelques indices qui laisse voir qu'il aurait pu y avoir des tensions quand on décide combien de gens on mettra dans chaque maison. Mmh. Il ne faut pas en mettre trop. Quelqu'un qui veut prendre la nourriture, on lui dit n'en prend qu'un peu moins, etc. Mmh. C'est un choix de votre part ou il n'y avait jamais de tensions qui ont été filmées?
Bah, en fait, c'était là, en fait. C'est ces moments-là, c'est sur les rushs, en tout cas, que j'ai vu, c'était ce qu'il y avait les moments où il y avait le plus de tensions. Et encore sur le moment sur la nourriture, on sent bien que c'est aussi un peu de la rigolade. Il n'y avait pas besoin d'en faire beaucoup plus aussi. Hier, on était à Marseille. Il y a quelqu'un dans la salle qui nous a dit, voilà, bah, qui nous a fait ce reproche de dire, mais on dirait que tout est rose dans le film. Le film n'est pas tout rose. Quand il y a le personnage d'Armand à qui on dit, vous allez avoir la nationalité française et dans la séquence d'après, on comprend que cette décision-là, on revient dessus. C'est assez fort et je pense que c'est... Et avec Guillaume, on est d'accord là-dessus. C'est suffisant pour montrer aussi que il n'y a pas tout qui est positif.
Donc vous étiez à Marseille, j'imagine que vous avez montré le film à Montpellier aux participants. Je ne sais pas lequel de vous deux veut répondre, mais quel a été l'accueil des anciens occupants, des militants sur votre film ?
Guillaume, tu les connaissais un peu plus que moi, je crois.
Ouais, effectivement, oui, c'était émouvant déjà parce que effectivement, il s'est passé 4 ans. Donc, il y a des personnages dans le film que je n'avais jamais revus ou alors que j'avais croisé quelques semaines après l'évacuation. Donc, il y a presque 4 ans. Et puis, vous savez, on parle de gens, effectivement, à l'époque, qui n'avaient pas de papier, certains qui parlaient à peine français. Alors, aujourd'hui, qui sont encore en France, qui parlent mieux français, les enfants ont grandi. Mais ils sont venus un peu au dernier moment. On ne savait pas vraiment s'ils allaient venir. Et puis, on les a vus arriver. Et moi, je retiens une petite fille qu'on voit... plusieurs fois dans le film, qui s'appelle Mélissa, qui avait 9-10 ans à l'époque du tournage et aujourd'hui qui en a 14. Et quand elle est arrivée avec ses parents, elle est venue vers moi et je lui ai dit « Mais tu te rappelles de moi? Tu te rappelles de la caméra ?» Et elle m'a dit « Non, pas trop, mais merci. »
Écoutez, merci beaucoup. Malheureusement, voilà. On n'a pas le temps d'aller plus loin, mais j'encourage tous les éditeurs à aller voir le film qui passe demain. Jeudi 3 avril à 20h au 7 Parnassien à Paris. Et vraiment, j'encourage très vivement, c'est un très très beau film. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci beaucoup à vous trois pour ce premier Zoom. Et on continue l'émission avec une courte pause musicale sur Radio Campus Paris. Et on écoute 12 Kawa avec son titre Sisyphe.
Mic test. 12 Kawa. 1. Vincenzo Loco. Au piano. Ouais, j'te là mon poteau. Rien à perdre, rien à gagner. Cité Ampère, Casse-d'Aide, Belzunce, Marseille. J'étais l'enfant merdeux, des pensées démentielles. Je crois que dans un bonbon bleu, j'ai dû sucer mon ciel. Dans ma tête, c'est le bordel, je devrais ranger ma chambre. Je marche sur des Legos spirituels quand je suis rempli de chambre. T'as réussi mon poteau, pourquoi faut que tu t'accables? Les filles t'envoient des photos de leur piercing à la chatte. Moins à voir. C'est un point de vue intéressant, je vais te raconter une histoire. Souvent les harpies s'asseyent, puis regardent un homme qui s'épuise à rouler un rocher, elle se regarde surprise. L'une d'elles en perd sa prise, s'envole pour s'approcher. On lui dit moche et cruelle, elle était belle, elle comme un oiseau mouillé. Et bien qu'elle ne battait plus que d'une aile, parvint à genouiller. Dis-moi pourquoi tu t'attaches à cette épuisante tâche au lieu de quitter l'enfer. Et tous les jours tu rabâches, tu reviens à ne rien faire. Sisyphe releva le crâne, surpris ici par la gorgone. Si elle comprend pas ce qui se trame, c'est qu'elle devait être fort conne. Vois-tu, si je m'escrime, c'est pour mon somptueux palais qui dépassera même les cimes. Les plus hauts sommets n'est pas né, car vois-tu, on n'est pas né avec les mêmes ambitions qui t'empêchent pas d'apprécier tes repas d'amphitryon. Tu peux trouver ça naze si je m'afflige une peine sans reine. C'est qu'au-dessus du Royal As, ma belle, et je pousse toujours ma pierre avec mes bras de gringalet. Je pousse toujours ma pierre et je vous fais bien rigoler. Mais au fond, elle désespère en la voyant dégringoler. Yeah, et je pousse toujours ma pierre avec mes bras de gringalet. Je pousse toujours ma pierre et je vous fais bien rigoler. Mais au fond, elle désespère en la voyant dégringoler. Yeah. Nous sommes parfois semblables, si auto-persuasifs pour nous rendre nous-mêmes esclaves comme Sisyphe. Et dans nos sociétés rangées, tu veux constituer ton pécule. Je crois que le danger, c'est de mourir sans avoir vécu. Les pieds sont collés au bitume et les pensées sont dans la lune. J'ai arrêté de penser que je pourrais trouver ma rue. C'est la vie telle qu'elle est, des beautés et des désastres. Je tiens debout malgré toujours, écartelé par les astres. Le souffle court et les chairs arrachées. Je répète à ma chérie, t'inquiète, un jour ça va marcher. Je cherche des minéraux précieux, mais rien ne s'en rapproche. Alors que mon fils est heureux avec ses graviers dans la poche. Et je pousse toujours ma pierre avec mes bras de gringalet. Je dois la faire bien rigoler, mais au fond elle désespère en la voyant dégringoler. Yeah. Et je pousse toujours ma pierre avec mes bras de gringalet. Je pousse toujours ma pierre et je vous fais bien rigoler. Mais au fond elle désespère en la voyant dégringoler. Yeah. Un enfant m'a demandé, c'est dur à dire, mais si l'humain est insensé, est-ce que le futur n'a plus d'avenir? Tellement de cicatrices qu'on se fait les martyrs des lions, et ça me rend encore plus triste que découper un oignon. Aujourd'hui, de guerre trop lasse, je redescends à pied en écoutant les podcasts d'Alexandre Astier. Mon esprit, un monde dévasté, mais si tu veux namasté, moi dans le carnaval, je n'avancerai plus masqué. On a choisi par aisance qu'on endure car on construit. Mais nous n'avons de connaissances que les murs de notre esprit. Nos vies sont des projets, on vivra demain ou plus tard. On peut mourir demain sans avoir vécu sa life. Mourir pour des illusions, mourir par des illusions. Moi j'ai fixé moi un max sur les murs de mon balcon. Et j'ai attaché du feu, fait prisonnier des gouttes d'eau. Un dernier joint de deux, en attendant Godot. Je prends plus de décisions décisives, la vie m'a tant appris. Mais si on est Sisyphe, dites-moi qui est la harpie. Dites-moi qui est la harpie.
C'était 12 Kawa avec son titre Sissi, vous êtes sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h.
Voici un extrait d'un atelier radio de la classe 4e 1 du collège Ariane à Argenteuil avec le thème « L'esclavage dans le contexte colonial au XVIIIe siècle ».
Bonjour, nous sommes les élèves de 4e au collège Ariane à Argenteuil. Nous allons vous présenter les résistances des femmes à l'esclavage dans le contexte colonial au XVIIIe siècle.
L'Afrique, l'Amérique et l'Europe ont commencé un commerce, le commerce triangulaire. Il consistait à emmener des Africains en Amérique pour servir de main-d'œuvre. Des esclaves ont aussi été déportés vers l'océan Indien.
Qui étaient ces femmes qui ont résisté à l'esclavage ?
Quelles furent les formes de la résistance féminine à l'esclavage ?
De nos jours, quelle place est faite aux femmes dans les représentations historiques de l'esclavage et des résistances ?
Pour commencer, Bilel et Rouanik vont vous présenter un portrait de femme résistante à l'esclavage qui se prénomme Claire.
Claire a vécu en Guyane, une colonie française en Amérique du Sud au XVIIIe siècle. Elle était esclave puis elle a marronné dans la forêt amazonienne. Un marron est un esclave qui s'enfuit. Claire vivait avec son compagnon Copena.
Les soldats français vont les capturer. Copena est condamné au supplice de la roue. Claire, quant à elle, est pendue.
À présent, Noah et Iliès vont vous présenter un nouveau portrait. Elle s'appelle Pauline Villeneuve.
Pauline Villeneuve est une femme guadeloupéenne née en 1697 en esclavage. Elle est arrivée en France et elle est mise en pension au couvent des Bénédictines en 1714 à Nantes par sa propriétaire, Madame Villeneuve. Un an plus tard, Madame Villeneuve souhaite la reprendre chez elle. Pauline refuse, elle veut rester au couvent. Madame Villeneuve fait un procès pour récupérer ce qu'elle considère comme son bien.
Madame Villeneuve utilise comme argument le fait que c'est son esclave et qu'elle a le droit de la récupérer d'après le code noir. Cet argument ne fonctionne qu'en Amérique. Pauline gagne son procès. C'est un des seuls cas de résistance à l'esclavage qui a abouti positivement.
Et maintenant, Victoria, Chloé et Fatima vont vous parler du film Ni chien ni maître, racontant l'histoire d'esclaves qui ont marronné.
Bonjour, nous allons aujourd'hui vous parler du rôle des femmes dans les résistances à l'esclavage dans le film Ni chien ni maître, et plus particulièrement de Machi, l'un des principaux personnages. C'est un film historique réalisé par Simon Montero en 2024.
Dans le film, Machi joue un rôle crucial car elle est la première à s'enfuir, ce qui va pousser son père, Massamba, à prendre la fuite pour la retrouver. Machi vient du peuple Wolof et du royaume de Kayor, l'actuel Sénégal. Elle récite un conte raconté par sa mère, la fondation des villages de son peuple.
Par ce récit, Machi perpétue le lien avec son peuple d'origine et avec l'Afrique. À la fin du film, on apprend que la mère de Machi elle-même a été tuée par les marins européens sur le bateau qui l'emmenait de l'Afrique vers l'île Maurice, parce qu'elle s'était révoltée.
Et pour finir, Lise et Valentina vont vous présenter une bande dessinée du nom de Wake.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la BD Wake de Rebecca Hall, dessinée par Hugo Martinez et publiée en France en 2024. Dans le livre, nous suivons Rebecca Hall, l'autrice, qui se met en scène en tant qu'historienne afro-américaine. Elle va faire des recherches sur les archives, qui sont des lieux qui contiennent des sources sur le passé, et va donc trouver des informations sur les femmes meneuses de révolte dont on ne parle pas assez.
Elle va notamment tomber sur des femmes comme Sarah, Abigail et d'autres qui font partie intégrante de ce mouvement. Nous allons aussi découvrir que plus il y a des femmes présentes sur le bateau, plus il y aura de révoltes car contrairement aux hommes, elles avaient accès aux armes qui étaient présentes sur le bateau.
Il s'avère que les esclaves n'ont pas été passifs. Beaucoup ont fait preuve de résistance culturelle, de marronnage, de révolte. Et bon nombre de ces résistances ont été menées par des femmes.
On espère que ce podcast vous aura permis de découvrir une nouvelle facette de cette histoire de la traite et de l'esclavage au XVIIIe siècle.
Ce podcast vous a été présenté par Iris, Kélia et Clémence, ainsi que par des élèves de 4e 1 du Collège Ariane.
C'était un extrait d'un atelier radio de la classe de 4e E1 du Collège Ariane à Argenteuil. Maïwenn nous a rejoints avec l'équipe du Festival Circulation. Maïwenn, je te laisse la main.
Merci Lou. Le Festival Circulation, festival de la jeune photographie européenne dont le but est de promouvoir la photographie émergente en Europe, fête ses 15 ans. Le festival ouvre ses portes ce samedi 5 avril au 104 à Paris et il aura lieu jusqu'au 1er juin 2025. Pour en parler, nous recevons Clara Chaloux, commissaire indépendante, spécialiste de la photographie émergente. Tu as participé à la direction artistique du festival pour le collectif Fêtard, le collectif qui organise le festival. Bonsoir Clara.
Bonsoir, merci pour l'invitation.
Avec plaisir. Nous sommes à la veille de cette 15e édition. Comment tu te sens ?
Dedans, à fond, vu que je repars sur le montage juste après cette prise de parole. Non, on est hyper contente. On est les mains dedans. Tous les artistes arrivent demain. Là, on est dans la période où on a juste hâte de montrer tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a monté, tout ce sur quoi on travaille depuis plusieurs mois. Donc, hyper excitée.
C'est que de la bonne adrénaline, ouais, pas de stress.
Non. On surfe sur un truc trop chouette et on a surtout hâte d'avoir tous les artistes avec nous demain et de pouvoir le montrer au public dès samedi.
Trop bien. Et bien justement, les artistes, oula, parlons-en. Si je comprends bien, donc vous êtes des commissaires indépendantes. Vous êtes 6 et vous avez assuré la direction artistique du festival pour le collectif Fêtard. Comment est-ce que vous avez sélectionné les artistes qui vont être exposés ?
Alors c'est tout un travail, on a plusieurs biais de sélection. Donc déjà on a cette particularité d'être un collectif de directrices artistiques, ce qui est assez unique dans le fonctionnement d'un festival photo en France. Et ça nous permet d'avoir une pluralité de regards et de brasser une pluralité aussi de projets photographiques qu'on veut montrer, et c'est vraiment l'objectif du festival Circulation. Donc on lance en fait un appel à candidature tous les ans à la fin du festival, donc là début juin normalement, sur lesquels on reçoit en moyenne jusqu'à 800 voire 1000 dossiers chaque année. Et donc nous, on a tout un travail de défrichage où on va aller regarder tous ces 1000 dossiers, toujours tout ensemble, avec différentes étapes de présélection et jusqu'à la sélection finale. Ce qui nous amène souvent environ une quinzaine de dossiers, 15-17 dossiers, ce qui n'est pas énorme par rapport à 900. Et ceux avec lesquels on va compléter des artistes qu'on va inviter pour un peu créer un équilibre dans des sujets qu'on n'a peut-être pas trouvé dans l'appel à candidature ou une particularité photo qu'on voulait développer qu'on n'a pas montré. Et se complète dans cette dernière sélection, phase de sélection, un focus qu'on fait tous les ans, dont on va peut-être reparler après.
Oui, j'ai prévu.
mais qui rajoute 4 artistes aussi. Et à alors, la sélection.
Juste pour une précision, quand on parle de photographie émergente, on parle de jeunes photographes ou de photographes, est-ce que c'est un palier de nombre d'expositions de...
Oui, en fait, on parle vraiment de photographes en début de carrière.
D'accord.
Donc nous, on ne va pas du tout regarder l'âge. C'est plutôt le nombre d'expositions qui ont été faites et le nombre d'expositions en France. La particularité du festival, c'est que les artistes exposés qui viennent de toute l'Europe ne doivent jamais avoir montré d'exposition en France. Mmh. Et si c'est le cas parce qu'ils sont français, c'est des toutes petites expositions.
D'accord. Oui, donc quelqu'un qui a été à la MEP, par exemple.
Non.
La Maison Européenne de la Photographie.
Non, malheureusement. Et on est assez strict à Circulation. Donc parfois, il y a des artistes qui sont là. Mais si, on est en début de carrière. Mais quand il y a eu une résidence ou un prix ou des choses comme ça, pour Circulation, c'est un peu vraiment la marque de fabrique.
Donc ça reste des photographes professionnels.
Tout à fait.
Mais voilà. Qui
sont professionnels, qui n'ont pas forcément fait des études de photographie. C'est plutôt qui ont mené un projet qui est terminé, qui est une série complète. Et donc, on peut exposer et montrer en tant que tel.
Ok, merci. Et alors, vous avez écrit dans votre propos éditorial que les questionnements territoriaux traversent cette édition 2025. Donc, je me demandais comment la question territoriale pouvait se traduire en photographie et dans cette sélection cette année.
Alors, déjà, la particularité de Circulation, c'est qu'on parle d'un territoire, vu qu'on parle d'un territoire de l'Europe.
Oui.
C'est la jeune photographie européenne. Donc, on est toujours sur cette question de la frontière, parce que nous, c'est notre vision de l'Europe et d'une Europe géographique. On n'est pas sur une Europe politique. Donc, on va forcément avoir des artistes, ne serait-ce que dans les nationalités qu'on représente ou dans les questionnements qu'il y a, qui vont questionner leur territoire, leurs origines, d'où ils viennent. On peut aussi avoir des artistes qui ne sont pas européens, mais qui habitent dans un pays européen. Donc, on brasse aussi ce que raconte l'Europe et ce que veut être l'Europe. Donc déjà, dans l'édition globale, on questionne toujours une histoire de territoire. Et après, dans chaque projet, c'est vrai que c'est une thématique qui ressort beaucoup, particulièrement cette année, mais même en règle générale. Beaucoup d'artistes qui questionnent leurs origines, de voir d'où ils viennent, et par l'intime, questionner des sujets plus larges d'actualité et de rapport à son endroit, d'où on vient et d'où on habite aussi. Il y a beaucoup ce lien-là qui se fait.
Merci. Alors, tu en as parlé tout à l'heure, vous avez aussi un focus, qui est une catégorie qui a été créée en 2019. Et cette année, c'est la Lituanie. Pourquoi ce choix ? Est-ce que c'est un pays qui est particulièrement riche en photographie émergente ou
ouais, alors, pour remettre un peu le contexte, le Focus, donc ça a été effectivement créé il y a 8 ans. Et l'idée, c'était justement de se concentrer sur une scène photographique d'un pays européen qu'on connaît un peu moins.
Et d'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y avait un petit tropisme vers les pays de l'Est.
sur la sélection. Parce que, oui, on a eu la Roumanie, la Biélorussie.
La Bulgarie et l'Ukraine, je crois.
Oui, tout à fait. En fait, c'est des terres qui sont des territoires et des pays qui sont très riches en photographie, qui ont aussi une vision de l'image et une force dans la dynamique, même artistique pour défendre des artistes, mais qu'on a souvent du mal à atteindre, nous, par nos biais classiques d'appel à candidature ou de veille. Et donc, le Focus nous permet vraiment de rentrer en contact en direct avec les professionnels de ce pays-là, de chercher à découvrir les artistes qui sont plus difficilement. En plus, nous, comme on est sur de la jeune création, c'est plus difficile de les rencontrer en direct. Donc, on passe vraiment par ce réseau concret professionnel de la photographie. Et alors, c'est beaucoup d'opportunités, le choix des Focus. C'est beaucoup de rencontres aussi. Mmh. Et là, la Lituanie, ça s'est fait pour deux raisons. Déjà, parce que l'année dernière, c'était la saison France-Lituanie. Donc, il y a une saison à l'échelle nationale qui fait des regards croisés entre un autre pays. Et donc, cette année, c'était la Lituanie. Donc, on a aussi continué sur ce volet-là et ça clôture un peu la saison qui est déjà terminée. Et aussi, parce que l'année dernière, c'était du coup un focus sur l'Ukraine et qu'il y a quand même, sur l'actualité de ces dernières années, des liens très forts qui se sont faits entre la Lituanie et l'Ukraine, de part aussi que la Lituanie a accueilli beaucoup d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes. Et donc, on trouvait ça hyper intéressant d'avoir ce regard parallèle entre l'Ukraine et la Lituanie.
Ok. Et donc, le festival, je l'ai dit, c'est sa 15e édition. C'est un bel âge. Je ne sais pas si toi, tu travailles depuis 15 ans. En tout cas, je crois que ce n'est pas ta première édition.
C'est même ma 15e édition. Mais, c'est
formidable. Cette question n'est pas bonne pour toi. Alors, je me demandais quel changement majeur tu as pu observer dans le paysage de la photographie émergente ces dernières années?
des 15 ans. Moi, j'ai commencé, c'est mon premier stage, c'était la première édition de Circulation. Donc, j'ai vraiment grandi avec Circu. On peut dire qu'aujourd'hui, la photographie, c'est, je pense, un médium encore plus large et qui va encore plus se frotter à d'autres matières. Donc nous, en tout cas, à Circulation, on pouvait se concentrer il y a 15 ans sur une photographie contemporaine qui restait au mur. Aujourd'hui, on va vraiment dans l'installation, on va avoir du son, on va avoir de la vidéo, on va avoir de la performance. Il y a vraiment ce côté-là de la pluralité du médium. On ne s'arrête plus à dire que de la photographie, c'est juste, entre guillemets, de la photographie. Et il y a aussi beaucoup de réflexion autour de la matière de la photo. Donc, créer avec, des impressions sur du tissu ou des anciennes techniques comme des cyanotypes, des entotypes, des choses comme ça. Donc, sur la technique, il y a quand même vraiment des évolutions. Et sur le fond, je pense que nous, ce qu'on a toujours défendu à Circu et ce qu'on continue de défendre, c'est une jeune création qui est engagée, qui est sur des sujets d'actualité, qui a autant du fond que de la forme et qui a envie de faire bouger les choses et qu'on a envie de montrer pour ça.
Merci. Pour revenir juste un petit peu sur des questions sur l'organisation, donc le festival se déroule sur 2 mois quasiment, principalement au 104, mais également en hors les murs à la bibliothèque Claude Lévi-Strauss, ainsi que dans certaines stations du réseau RATP. D'ailleurs, si vous allez à Radio Campus Paris et que vous descendez à Breguet-Sabin, vous aurez la chance de voir des photos. Est-ce que tu peux juste rapidement parler des temps forts du festival?
Oui, alors c'est très rapidement. Déjà, on a samedi, vernissage, l'inauguration. Venez, l'exposition est gratuite. On a plein d'événements. On a un focus sur la Lituanie, du coup, avec une radio lituanienne, un bookshop lituanien, un goûter lituanien aussi qui vient. On a des performances de nos artistes. Enfin, ça va être une super journée et vraiment, je vous la conseille. Et après, on a un week-end professionnel les 17 et 18 mai. Des lectures de portfolio et des workshops. Et on a aussi des studios photos tous les week-ends où on peut s'inscrire pour se faire tirer le portrait par des photographes différents et repartir avec son portrait imprimé. Et ça, c'est super aussi.
C'est un super programme, ça donne envie. Et j'ai une toute petite dernière question en 30 secondes. Comme tu es commissaire d'exposition, est-ce que toi, tu as un artiste de cette édition qui t'a particulièrement touché? Je sais pas,
c'est terrible comme question
interdite. Si on ne doit retenir qu'un nom.
Non, je ne pourrais pas dire qu'on doit retenir qu'un nom, parce qu'évidemment, on en a 23 et que c'est un tout. Moi, j'ai adoré travailler avec Wendy Zaibo, parce qu'en fait, on se répartit les artistes avec qui on collabore. Et donc, moi, j'ai travaillé avec trois artistes et trois collaborations étaient géniales. Mais avec le travail de Wendy, j'ai vraiment appris plein de choses et on a créé une œuvre assez in situ que je vous invite à découvrir. Et donc voilà. Mais c'est terrible de ne donner qu'un nom. Surtout, venez voir les 23, ça va être super.
Merci beaucoup. Pour rappel, le Festival Circulation aura lieu du 5 avril au 1er juin 2024 au 104 à Paris.
Merci beaucoup à vous deux pour cet entretien. Nous continuons l'émission avec, après une courte pause musicale sur Radio Campus Paris. On écoute A.G. Cook avec son titre Lucifer. C'était A.G. Cook avec son titre Lucifer sur Radio Campus Paris. Fabien, à toi de nous présenter ton flash info.
Le flash info de la matinale de 19h.
Bonjour. Pour la première fois mercredi, les touristes européens qui entrent au Royaume-Uni doivent être munis de leur autorisation de voyage électronique, ETA, un document numérique payant obtenu au préalable censé renforcer la sécurité aux frontières britanniques. Tous devront remplir avant leur voyage un questionnaire en ligne avant de s'acquitter d'une somme de 10 livres, environ 12 euros. Celle-ci sera portée à 16 livres, soit 19 euros, à partir du 9 avril. Les députés se penchent mercredi sur un texte visant à flécher l'installation des médecins dans les déserts médicaux afin de mieux répartir leur présence sur le territoire. La proposition de loi divise notamment à cause de l'article 1 qui a pour ambition de s'attaquer à la liberté d'installation des médecins. Il est d'ailleurs le seul article à avoir été supprimé lors de l'examen du texte en commission des affaires sociales. Un homme et deux autres personnes ont été interpellés samedi soir, soupçonnés d'avoir grièvement blessé à coups de couteau deux personnes près de la place d'Enfer-Rochereau dans le 14e arrondissement de Paris. L'agression a eu lieu samedi vers 21h. Les victimes sont des passants qui sont intervenus lors d'un conflit entre des riverains qui promenaient leurs chiens et des personnes sans abri dont le chien a attaqué celui d'une riveraine. Les présidents français et algériens ont acté une relance des relations entre les deux pays lundi 31 mars. Ils se sont accordés sur le fait qu'une coopération migratoire confiante, fluide et efficace, permettant de traiter de toutes les dimensions de la mobilité entre les deux pays, devait être immédiatement réinitiée dans une logique de résultats répondant aux préoccupations des deux pays. Et enfin, pour terminer, Bubble Planet, l'expérience immersive arrive enfin à Paris. Direction la Villette dans le 19e pour plonger dans un royaume sphérique fantastique et voyager au cœur des bulles à travers 10 salles thématiques. Au programme, des paysages fantastiques et même un simulateur de vol en montgolfière pour stimuler vos sens, éveiller votre curiosité et repousser les limites de votre imagination. Bubble Planet est une passerelle vers un monde de rêves et d'émotions où même les plus grands retrouvent leur âme d'enfant. Plus d'infos sur le site officiel bubbleplanet.com.
Merci beaucoup Fabien. Innocent est avec nous ce soir. À tout de suite.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Bonjour Alice, je te laisse la main.
Coucou Lou, eh bien bonsoir Antoine du coup.
Bonsoir.
Bon, Antoine ou Innocent, en tout cas c'est comme ça que les gens te connaissent à travers ta musique. On dit bien Innocent ou
Innocent, ouais. Et mon nom de famille c'est Innocent en fait.
Ok, vas-y le mettre. Ça va être ma prochaine question du coup, parce que je crois que du coup Innocent c'est un nom de scène qui t'a été inspiré du coup de tes racines familiales, enfin de ton nom de famille du coup. Mais j'ai aussi vu que c'était par un écrivain haïtien, Antoine Innocent, Innocent.
Ouais.
Innocent du coup, sur l'accent anglais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le choix de ce nom du coup?
Bah en fait ça a été donc ma famille haïtienne, donc on porte le nom de Innocent, et en fait c'est une grande famille de musiciens.
D'accord.
Et en fait je voulais que dans mon nom de scène on retrouve justement mes racines haïtiennes, mais comme toute ma famille est ce sont tous des musiciens, j'avais envie d'aussi avoir une singularité là-dedans, donc me démarquer de ma famille. Et du coup c'est pour ça que je me suis dit que Innocent, c'était, ça a gardé l'essence de mon famille, et en soi c'est la même chose en anglais ou en, enfin c'est la même chose, la même prononciation, c'est juste un peu plus compliqué en français quoi.
ou en anglais sans, oui c'est vrai que sans le,
c'est
sans
la même
le
chose. Ouais, ouais. Ça.
On le lit vite et on oublie le ouais. Au final, donc le fait qu'il y ait aussi un écrivain qui s'appelle Innocent en nom de famille, il y a aussi le côté littéraire, du coup peut-être plus poétique, que toi tu voulais mettre devant.
En fait, ma mère a toujours été, donc ma mère c'est du coup le côté français, a toujours été une grande fan des livres. Donc c'est malheureusement une passion qu'elle ne m'a pas passée. Mais par contre, je suis né en fait dans un monde où l'impact du livre est très important et l'impact d'écrire. Donc à la seconde où j'ai vu que je partageais le même nom quand j'étais jeune avec un grand écrivain haïtien, j'étais honoré et je me suis dit ça c'est un truc que je dois garder.
Ouais. Surtout que dans la musique, il n'y a pas seulement la musique, il y a aussi la phase d'écriture, j'imagine. Comment est-ce que toi tu la vis cette phase d'écriture? Je crois que tu pars de thématiques de vécu, ton dernier EP du coup Six, il parle, je te laisserai mieux l'expliquer avec tes mots j'imagine, mais voilà, on suit quand même un petit peu la phase post-rupture, en tout cas c'est comme ça qu'on la ressent. Donc la phase d'écriture pour toi, comment elle se passe?
Moi, donc tout mon EP Six en fait parle d'une relation qui a duré 6 ans, et en fait c'est 6 chansons, c'est en fait 6 façons de demander à quelqu'un de rester. Et pour moi, écrire une chanson, surtout des chansons de rupture comme ça, c'est très thérapeutique. Mais dans le sens où, c'est assez marrant, je tombe quasiment malade le temps de devoir écrire la chanson. Donc on va dire je dois écrire la chanson. Pendant 3 jours, je vais être vraiment physiquement malade, jusqu'au moment où j'ai fini la chanson. Et quand j'ai fini la chanson, c'est incroyable. C'est comme l'effet d'un Doliprane ou d'une aspirine, mais d'une seconde à l'autre, j'ai plus aucun symptôme. Et en fait, ça vit à travers moi et du coup... Je suis guéri, quoi.
C'était psychosomatique, peut-être, du fait de la douleur vraiment que tu pouvais vivre mentalement et du coup physiquement qui se ressentait aussi. Ça, c'est une douleur aussi qu'on ressent dans l'EP, surtout dans la progression qu'il y a dans le premier titre, du coup, qui s'appelle Aliens. En plus, entre parenthèses, Vices Inside my head. Du coup, dès le début, on sait qu'on est vraiment dans ta tête et on se projette dedans. Et la continuité fait que, enfin, après, voilà, il y a plusieurs titres où tu parles vraiment de la personne, j'ai l'impression, et de la douleur. Et la fin, où il y a plus une. Comment dire ? Peut-être un truc un peu plus d'apaisement.
Complètement, je suis. En fait, Goodbye, qui est la dernière chanson. C'est assez marrant parce que c'est la chanson la plus mature de l'EP. Sauf que je l'ai écrite quand j'avais 19 ans.
D'accord, donc, avant tout le reste. Donc.
Avant tout le reste. Donc j'étais très mature à 19 ans, après j'étais vraiment immature.
Ça a basculé,
ça allait dans le mauvais sens. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vraiment, c'est ça. Goodbye, c'est la seule chanson où c'est moi qui dis à l'autre personne, écoute, est-ce qu'on devrait... On a essayé, ça marche pas, est-ce qu'on devrait se séparer ? Toutes les autres chansons, c'est moi qui lui demande de rester.
Mm. Ouais, donc il y a vraiment une... un petit peu comme une sorte de résignation ou peut-être la réalité où te rattrape aussi de dire bah
complètement voilà, c'est... et c'est marrant qu'elle m'a rattrapé à 19 ans.
ouais. Parce que du coup c'est à 19, enfin cette histoire c'était quelque chose que t'avais vécu et ensuite longtemps après t'as décidé de le mettre en musique ou alors c'est vraiment juste après
non moi j'ai écrit la plupart des chansons, enfin j'ai écrit toutes les chansons pendant la relation.
D'accord.
C'est juste que ça m'a pris beaucoup de temps en fait à les arranger en fait, à l'instrumentation, parce que pour trouver qui j'étais musicalement, étant donné que j'adore énormément de styles de musique, pour savoir dans quel style de musique je voulais aller, c'était très compliqué. Et en fait, il fallait se connaître humainement avant de se connaître musicalement. Et du coup, ça m'a pris un peu de temps. Mais je suis quand même très content enfin de pouvoir sortir ces chansons parce que elles sont quand même vieilles. Donc, je suis content de les sortir et justement de monter sur scène et de les revivre.
Et justement, sur scène, est-ce que c'est le moment où tu vraiment t'as l'impression d'avoir une connexion avec le public ? Est-ce que le public s'identifie à tes titres ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est encore une fois thérapeutique ? Enfin, pas contraire, mais juste
c'est
complémentaire peut-être.
Mais ça dépend, hein. Tu peux être devant un public qui n'est pas trop réceptif. J'ai eu de la chance, ça ne m'est pas encore arrivé. Ça va sûrement m'arriver un jour dans ma vie. mais en fait, le truc, c'est que la scène, c'est assez marrant parce que moi, j'ai toujours été dans la musique. Et mon père était chanteur et du coup j'ai baigné dedans. Donc à un moment, j'ai 29 ans, mais vers 24, 25 ans, je me suis dit, est-ce que je suis programmé pour faire de la musique ou est-ce que j'ai envie vraiment de le faire ? Et en fait c'est marrant parce que cette question, elle est automatiquement répondue à la seconde où je suis sur la scène. Parce que dès que je suis sur scène, c'est évident que dans ma tête, enfin j'y réfléchis même plus, c'est là que je dois être. Donc j'essaie de tout donner pour le public et maintenant si le public... arrive à synchroniser, c'est incroyable, et pour l'instant c'est toujours arrivé, mais si un jour on est désynchronisé, il va falloir survivre les 30 minutes ou les 1 heure de spectacle.
On ne souhaite pas que ça arrive, mais bon, voilà. On ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Et quand tu travailles pour cet album, dans la composition de cet album, toi, du coup, tu chantes, mais est-ce que tu fais des instruments aussi ?
Donc moi, je suis guitariste. Voilà. Donc en fait, comment ça fonctionne en général, c'est que je viens avec une maquette, donc que j'ai déjà arrangée moi-même. Donc en bidouillant sur mon ordinateur, en jouant un peu de guitare, en jouant un peu de piano, un peu de basse, mais très très peu.
Ableton, c'est pratique.
Ableton, exactement. Ableton, c'est ma vie. Et du coup, à la seconde où j'ai cette petite maquette, c'est là que je rentre avec des musiciens et qui jouent tout parce que je me considère un petit peu guitariste, mais tout le reste, j'oserais pas le jouer sur un CD parce que c'est trop compliqué. Mais voilà. Du coup, je produis, mais c'est pas moi qui joue sur l'album.
Les musiciens qui t'accompagnent pour l'enregistrement studio de cet album, c'est aussi ceux qui t'accompagnent sur les concerts, les scènes que tu peux faire ?
Non. En fait, ceux qui m'ont accompagné pendant l'enregistrement justement de tout... de tout l'EP, c'était justement... c'était à Bruxelles, du coup. Et c'était vraiment des gars qui avaient vraiment de la bouteille et qui vraiment jouaient incroyablement bien. Sauf que sur scène, en fait, je suis avec deux potes et un guitariste qui est aussi un très bon pote. C'est récent, on vient de commencer à jouer ensemble.
Okay.
Et en fait, on a tous environ le même âge. Et je voulais que ça soit important pour qu'on soit... qu'en fait, qu'il y ait cette dynamique de... On commence tous un peu en même temps, on fait tous un peu, on a un peu cette joie de nouveau. Et en fait, c'est incroyable, j'adore être sur scène avec eux.
Donc, à propos de scène, justement, là, avant que l'émission se termine, tu vas peut-être nous dire tes prochaines actualités. Je crois qu'il y a des choses cool qui arrivent, notamment à Bruxelles.
Donc, complètement, là, à Bruxelles, là, je fais partie d'une campagne qui s'appelle Bruxelles Loves Music, qui en fait, c'est assez marrant parce que t'as des affiches un peu de partout dans la ville de Bruxelles pour justement promouvoir les artistes, les artistes bruxellois. Et du coup, on a un showcase le 24 avril à l'Archiduc, qui est une salle un peu mythique de Bruxelles. Et j'ai toujours voulu jouer là-bas. Le jour où on m'a dit que j'allais jouer là-bas, j'étais...
C'est la consécration.
Ah ouais, là, j'étais trop heureux. Et en début mai...
Le 6 mai.
Le 6 mai, exactement. J'arrête pas d'oublier la date. j'ai en fait, à Paris, un Sofar. Et Sofar, c'est vraiment des concerts privés. On peut prendre des places en ligne. C'est des concerts privés. On ne sait pas encore où. Il faut voir sur le site. Il faut prendre les places à travers le site. Mais en fait, c'est des concerts vraiment intimes. Et c'est vraiment très chouette. J'ai découvert ça il y a très longtemps. Ça a commencé à Londres. Et c'est vraiment comme si tu jouais dans un appartement, mais avec 60 personnes. Quoi. C'est
d'accord.
Incroyable. Incroyable. J'adore.
Donc, allez écouter l'album Six de Innocent et à retrouver du coup sur scène le 6 mai en physique.
Exactement.
Bah, merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup à vous deux. C'était le dernier Zoom. Donc, nous continuons l'émission avec une courte pause musicale sur Radio Campus Paris et on écoute Goodbye de Innocent. You're in your boat all day. I'm playing my guitar all night. We ain't got much left to say. First time you and I. Remember us, the mornings, loving on the floor. These memories are still so clear. Have we been blinded by before? Maybe it's better if we're just not meant to be. Maybe it's better if we try not to believe. I've seen this before, that look in your eyes. What if we still gave it a try? But if we did make it by now, doesn't mean we say goodbye. You were my first, my only lover. My first, my last heartbreak. The scars we share are still so hurting, baby. I need to move out of the way. Maybe it's better if we're just not meant to be. Maybe it's better if we try not to believe. I've seen this before, that look in your eyes. What if we still gave it a try? But if we we're just not meant to be. Maybe it's better if we try not to believe. I've seen this before, that look in your eyes. What if we still give it a try? Maybe it's better. Doesn't mean we say goodbye. C'était Goodbye de Innocent sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
Eh bien, Diane, je te laisse faire ta chronique.
Merci.
Hier, c'était le 1er avril. Et pour ce jour, sous le signe de la blague, de la galéjade, on a eu droit à une fausse pub pour un produit qui assèche les cheveux bouclés de la part de la Belle Boucle, un faux partenariat avec la NASA qui promettait un défilé sur la Lune pour une marque de vêtements, ou encore la marque Bic qui nous promettait la sortie d'un nouveau stylo saveur kebab. Mais moi, je crois que je gagne un concours haut la main, celui des pires annonces à faire le 1er avril. En plus, j'ai jamais rien gagné dans ma vie, donc ça me ferait au moins une chose à faire briller chez moi. Donc, le 1er avril 2017, je mangeais avec mon père au resto. Il faisait beau. C'était le début du printemps. Les hirondelles étaient sorties et les fleurs aussi. Et mon père est venu gâcher mon moment de plaisir en m'annonçant que, après avoir divorcé avec ma mère à l'âge de mes 10 ans, il allait se remarier dans un mois et demi avec une femme de 20 ans de moins que lui, rencontrée il y a 6 mois, alors qu'il avait 50 balais. Comme dirait le célèbre même, ça fait beaucoup là, non ? Et puis, il m'annonce ça comme un cheveu sur la soupe. Un jour de printemps, il arrive et il gâche mon rêve. Comme dirait Cusco, tu m'as pourri mon groove. Surtout un 1er avril. Il y a 365 jours dans une année, il choisit le 1er avril. Il avait vraiment un sens pointu du timing. Pendant une heure, je me suis dit, mais il se fout de ma gueule. Il me fait une blague, l'autre con. Parce que ça se trouve, c'est juste une blague qui dure depuis 8 ans. Aujourd'hui, il est remarié, il vit dans un autre pays. Il doit se dire, bon, peut-être je lui dis maintenant que c'était une vanne. Et bon. Puisque c'est une personne qui enchaîne les balles de mauvais goût, qui ne connaît pas l'honnêteté dans sa vie, encore moins les capacités de prendre ses responsabilités et de dire la vérité, bon, il est resté empêtré dans sa vanne. Moi, je vous dis, les mecs, ça vous coûte un pognon de dingue d'être des tocards. Ça fait quand même 8 ans à s'inventer une vie pour pas grand-chose. Franchement, il aurait pu être un agent du FBI, ça aurait pu être plus intéressant. Ou juste trouver une vanne moins grandiose pour me faire la raconter. Un truc simple, une blague de Toto, un poisson en papier dans le dos, ou mettre trop de parmesan dans mes pattes. Mais il a voulu se la raconter. Être le plus grand, le plus fort, le plus intelligent. Et surtout, il en a fait qu'à sa tête. M'annoncer ça un 1er avril. Mais il faut vraiment être con pour le faire. Parce que oui, hein, je le dis clairement, c'est pas une blague. C'était vraiment une vraie annonce. Le 1er avril 2017, mon père m'a annoncé qu'il s'est remarié avec une femme qu'il avait rencontrée 6 mois auparavant. Alors je sais ce que vous vous dites, que j'exagère, que c'est pas tellement de sa faute et que surtout, il n'est pas vraiment prévu que ça tombe un 1er avril. Alors, déjà, je connais mon père, je l'ai côtoyé pendant de nombreuses années, donc je connais sa capacité à mentir à tout le monde et à être dans le déni quand tout est devant ses yeux. Donc si mon père a fait exprès de m'annoncer ça un 1er avril, et surtout un week-end où je passais à vivre mes premières expériences d'engagement associatif au lycée, bah, c'était pour une raison. Il a littéralement fait exprès de venir me mettre cette annonce sous le nez pour me déstabiliser et essayer de venir pourrir mon week-end. Et bizarrement, c'est à ce moment-là que ça a commencé à déconner. Mon père a commencé à faire n'importe quoi, à m'envoyer des messages insultants, dénigrants et surtout à ne pas payer ma pension alimentaire. Petit à petit, les blagues dignes d'un 1er avril se sont enchaînées en dénigrement sévère, puis en harcèlement moral et psychologique. Alors aujourd'hui, ça va mieux, j'ai coupé les ponts avec lui et je vais pas vous raconter ma vie pendant 30 minutes 30 parce que j'ai autre chose à faire. Mais juste vous rappeler que s'il y avait un concours des pires annonces à faire un 1er avril, je gagnerais haut la main. Et attention aux annonces que vous faites le 1er avril, on ne sait jamais, ça se trouve, elle se retrouve dans une chronique de Radio Campus. Alors, haut les cœurs, bisous et bonne soirée.
Merci beaucoup, Diane. À tout de suite. C'est la fin de cette matinale. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Restez connectés pour le Monde Zygomatique à 20h, l'émission qui traite de l'actualité avec beaucoup d'humour et de second degré. Notre émission sera à retrouver en replay sur le site Radio Campus Paris. Merci à Léo et Dilaila et Juliette à la Réal, Diane pour ta chronique, Fabien pour ton flash info. Maïwen et Alice pour les 3 zooms de ce soir. Maïwen à la coordination et merci à nos invités d'aujourd'hui. Très bonne soirée sur Radio Campus Paris.